Gilles Proulx.
Bonjour, mon cher Richard.
Richard Martineau.
Petit lapin.
La rencontre.
Point à l'heure des cadeaux.
Je serai pas là, à vous flatter dans le sens du poil.
Point à la ligne.
C'est très important, ce qu'on dit.
La rencontre Proulx-Martineau.
Gilles, êtes-vous sérieux? On va avoir besoin d'une troisième dose.
Ça regarde mal. Il y a une conférence ce matin du ministre de la Santé. Ne soyons pas surpris si ce matin, le ministre parle peut-être d'un troisième vaccin. Après tout, on est influencé par les Américains et on voit l'exemple avec Joe Biden qui lance sa nation alors qu'il y a bien des premières doses qui n'ont pas eu lieu pour un troisième vaccin. C'est pas des maudites farces. Alors, si, et on s'aperçoit d'une chose qu'on doit admettre, c'est que nos jeunes, plutôt forts que les autres, d'après certaines têtes fêlées, prennent de plus en plus le chemin de l'hôpital. Alors, on voit la COVID-19 a emporté une jeune ou un jeune de 27 ans. Ce matin, on en parle dans le journal, un gars qui était fort, mais qui avait eu qu'un seul vaccin. Alors, conférence ce matin pour nous annoncer quoi? Je ne peux pas croire qu'on va envisager une troisième dose après tous ces malheurs où on remonte à octobre 2019. Et on ne sait pas si Éric Duhaime va assister à cette conférence.
écoutez, je suis pas un expert. Moi, je répète ce que j'ai lu. Mais il y a beaucoup d'experts qui disent, par exemple, en Israël, il y a une remontée des cas et on pense que l'efficacité des vaccins diminue avec le temps. Après quelques mois, les vaccins seraient peut-être moins efficaces, ce qui voudrait dire, mais là, je parle au conditionnel, qu'il faudrait se faire vacciner une fois par année, un peu comme on le fait avec la grippe. Il va falloir faire
c'est
ça.
C'est pas des dents, mais face. Hein. Ça prouve vraiment l'insuccès de la science sur cette force du mal qui est ce microbe sournois et qui nous démontre que nous sommes peut-être condamnés pour, en tout cas, une génération, je ne sais pas, la
seule. Un petit vaccin, là. On fait la file là, pendant quelques minutes, on se fait vacciner une fois par année. C'est ça qu'on fait, là. Moi, les gens d'un certain âge se font vacciner une fois par année contre la grippe.
Ben oui, moi aussi, je fais ça depuis l'âge de 65 ans. Et c'est valable. 8 fois sur 10, je n'attrape pas la grippe, mais 2 fois sur 10, je l'attrape quand même. Ça dépend de ton état de fatigue aussi. Mais est-ce qu'on va en venir à ça? Pour ça, va falloir créer un amalgame de ces 3 vaccins pour en faire un mot-à-ditement puissant pour qu'on ait à aller à la clinique une fois là. Peut-être, mais en attendant...
Mais là, il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est ça, un vaccin par année, ça, c'est parce que vous voulez enrichir les big pharma, puis tout
temps,
ça, c'est un complot, puis là, ils vont partir, ben oui, vous nous enfoncez ça dans la gorge, un vaccin par année tout le long de notre vie, puis mon Dieu, on n'a pas fini avec cette gang de bozos-là.
Les bozos ont la préséance et puis ont beaucoup d'exposure et on a Éric Duhaime qui est un beau là-dedans, justement un bel acteur, qui lui a été vacciné par contre.
Ben oui.
Et quelle belle contradiction. Mais quand tu vois des exemples, la Ligue nationale de hockey, tu sais, qu'on aime le hockey ou pas, c'est quand même des athlètes, des gars de 20 à 30 ans, c'est des gars forts, c'est des gars qui sont soumis à des régimes alimentaires, qui vivent de sport et de plein air, et eux-mêmes ont des victimes. Ça ne fait pas réfléchir les têtes fêlées. Moi, je comprends pas qu'on n'est pas capable d'entrer dans la tête des têtes fêlées des messages exemplaires.
Non, c'est comme des sectes. Ils veulent rien savoir. Ils ont vu la vérité, puis ils comprennent ni du cul ni de la tête, comme on dit. Ça leur rentre dans une oreille, puis ça leur sort par l'autre. Moi, je suis convaincu, ce matin, il y a des gens qui regardent la nouvelle du jeune de 27 ans qui est mort, puis ça leur fait strictement rien.
C'est un cas sur 1 million, c'est pas mon cas à moi, puis bon.
Alors là, vous parliez de hockey. Je parlais un peu plus tôt avec Thomas Mulcair puis Jean-François Lisée. Les deux sont contre le fait qu'on met une scène dans un stade de baseball. Vous en pensez quoi?
Ils ont tout à fait raison. Et pour parler des rêveurs qui souhaitent toujours un stade de baseball dans le bassin pile. On a créé une densité, là, c'est devenu un Manhattan artificiel de bureaux et de condos de millionnaires. Il n'y a pas de genre d'hiver comme autour du stade olympique dans l'Est, où là, tu as des milliers de logements de gens qui peuvent aller traverser la rue et s'il n'y a pas de baseball, pour avoir des activités dans le stade. Alors, heureusement, ces rêveurs ont été refroidis hier par la présidente du géant de l'immobilier Ivanhoé, dans lequel portefeuille d'Ivanhoé on trouve la caisse de dépôt. Alors, madame leur a parlé, justement, qu'on a déjà un stade dans l'Est.
Ben oui.
Et que tout autour du stade dans l'Est, on trouve un quartier de logement locatif, un quartier vivant. Pas des condos de millionnaires. Alors, ce projet de plusieurs centaines de millions de dollars va ressurgir quand, au lendemain des élections des municipales, le 7 novembre, là, Brofman et compagnie, puis Coderre, puis peut-être madame, puis l'autre monsieur, puis les 9 candidats, puis envoyons. En attendant, rappelons qu'il suffira de 3 défaites en ligne pour voir le stade du bassin Peel se vider. Et que le stade de l'Est était une merveille. C'est-tu bizarre, tout d'un coup, du stade de l'Est fait plus, il est trop loin du terrain, puis des maudites folies de la sorte, quand les Américains qui endossaient l'uniforme des Expos, quand ils ont déménagé du Parc Jarry au stade olympique, tout ce que j'entendais, moi, me rappelle de ça, c'était hier, the great big O, oh, we love the big O, the big O, c'est the big stadium, Olympic Stadium. Alors, c'était merveilleux, puis moderne, puis la proximité était correcte, par le don. Et là, tout d'un coup, ça fait plus parce que les Anglais veulent pas prendre le métro jusque dans Eastern Part of Montreal. Il y a ça aussi, faut pas oublier.
C'est vrai. Puis quand, comme vous dites, là, après 3 défaites d'affilée, les gens vont cette année. Je me souviens, moi, les derniers matchs des Expos, j'allais voir ça avec mon père au stade olympique. Ils étaient pas bons, les Expos, puis on n'avait pas assez d'argent. C'est bien beau là, avoir un stade, mais il faut que tu aies assez d'argent pour attirer les bons joueurs puis les payer. Ce qui est pas évident. Fait que finalement, il était pas bon, puis les gens allaient pas y voir, puis le stade était vide. Puis moi, j'aimerais bien ça, un beau stade dans le centre-ville, puis là, avec les étoiles au-dessus de nos têtes, puis regarder les buildings autour, puis voir un match de baseball. Mais on n'a pas l'argent pour ça. À un moment donné, il faut penser à notre capacité de dépenser. On n'est pas riche au Québec.
Voilà, on se pense riche parce qu'on a des beaux édifices qui sont en hauteur et puis d'architecture un peu originale, rien de comparable avec Shanghai quand même. Mais Montréal est une ville pauvre, là. On était situé au 38e rang, je pense, dans les villes de l'Amérique du Nord, lors d'un palmarès d'il y a quelques années. Montréal n'est pas une ville riche. Il faut voir le nombre de quêteux qui grandissent un peu partout dans tous les coins et recoins de la ville. Chose qu'on voyait pas il y a 20 ans. Ils étaient tous concentrés sur le pont Jean-Cartier, ce qui est plus le cas.
Ben non, à chaque stop, à chaque feu de signalisation, à chaque carrefour, à chaque intersection, il y a quelqu'un qui quête à Montréal. C'est une ville très, très pauvre. Et là, soudainement, on va se taper un stade, alors qu'il y a un stade qui sert à rien. Et comme vous dites, ouais, mais ça, ça intéresse pas les Anglo de l'Ouest, là, de prendre le métro puis de se rendre dans l'East of Montreal.
Exact. C'est un des plus beaux stades au monde. La démagogie avec certains animateurs de radio, dont Caroline Proulx elle-même, quand elle était animatrice démagogue, disait que c'était un bol de toilette. Elle embarquait, elle travaillait à CJD. Elle embarquait dans le jeu des fanatiques, encore une fois, des destructeurs de tout ce qui est québécois. C'est un des plus beaux stades au monde. La preuve, c'est que lors des tournées touristiques des autobus, à toit ouvert ou pas, on arrête obligatoirement pour voir l'hommage au béton qu'avait rendu l'architecte Taillibert à ce stade, l'architecte qui avait fait ses preuves.
Alors, les évêques vont verser 30 millions de dollars aux victimes des pensionnats.
Je suis en train de faire une série pour Radio Ville-Marie, Richard, je viens de terminer avec des historiens liturgiques, des gars très forts, Et c'est évident qu'on voit pas les deux côtés de la médaille là-dedans. Il y a beaucoup de politique. Alors là, les évêques du Canada vont donner 30 millions sur 5 ans aux descendants des victimes de ces pensionnats gérés par l'Église catholique à l'époque. Les protestants géraient peu, eux, et qui étaient destinés aux Autochtones. Faut-il savoir qu'il y a aussi des élèves autochtones qui s'en sont bien sortis parce qu'ils ont eu une éducation de la part des Oblats puis des sœurs de Saint-Hyacinthe, une éducation à l'époque en français où on voulait étendre. C'était à l'époque d'Henri Bourassa, c'était à l'époque de Louis Riel où on voulait fonder la colonie française dans l'Ouest canadien. Également, ça a commencé là. Alors, toujours est-il que du jour au lendemain, il y a eu une décision d'Ottawa de Johnny MacDonald. On le répète pas assez. Vous n'enseignez plus en français à ces enfants-là et vous allez les déraciner, vous allez leur enseigner en anglais et vous allez en faire des protestants parce que tout le temps, vous allez décoller de là. Les religieux sont obéissants et continuent sans argent. Plus de subventions de la part de Johnny MacDonald. Le Parti libéral prend le pouvoir, applique exactement, document à l'appui, la même maudite politique assimilatrice à l'égard de ces Amérindiens. Oui, oui, mais on parle des maladies quand même, c'est épouvantable. Les maladies, elles affectaient aussi les petits blancs. Montréal était une ville aux prises avec la poliomyélite. En ces années, nous n'avions pas l'hygiène du temps. En plus de ça, oui, mais il y a des cimetières, ils sont là enterrés anonymement. C'est vrai, mais les religieux avaient bien de la difficulté à rejoindre les parents quand on a arraché ces enfants-là. La police montée fédérale allait arracher ces enfants-là pour les envoyer dans des couvents, pour les instruire à leur façon, en anglais. Là, le petit gars mourait. Comment rejoindre les parents quand c'était des nomades en train de chasser le buffalo dans l'Ouest ou encore être dans le bois faire de la chasse? Alors, ça a fait beaucoup de désidentification, ce qui faisait l'affaire du gouvernement de Johnny MacDonald. Alors ça, on oublie cet aspect-là. Oui, oui, mais le pape s'excuse pas. Le pape François, qui est un jésuite, donc au-dessus de la moyenne dans le clan liturgique, il n'y a pas de doute, dirige une église universelle. Il y a bien des problèmes. Et il étudie déjà avec un groupe de prêtres catholiques qui sont au Vatican depuis 2 ans. On n'en parle pas de ça. Et aborde ce problème. Il va venir sur la place publique tout en espérant qu'il va s'en prendre également au pouvoir politique du temps, un pouvoir menteur et manipulateur, car Johnny MacDonald et même le Canada raciste d'aujourd'hui, leur but, c'est de faire subir au Québec, en démolissant nos lois à nous autres, le même sort qu'on a fait subir aux Anglais, aux Indiens, c'est-à-dire les déraciner, les dépersonnaliser et en faire tout simplement un élément folklorique.
Et comme vous dites, les historiens doivent se pencher sur cette période-là, mais froidement. Là, il y a trop d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Il y a beaucoup de politique, comme vous le dites, là. Et à un moment donné, il va falloir avoir une lecture de ces événements-là, froide, historique, peut-être avec le temps. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain.
Au plaisir.